La Rose des Vents présente du 4 au 17 novembre un spectacle de Sophie Rousseau. Quel chemin reste-t-il que celui du sang ? Bonjour Louise.
Bonjour.
Donc un spectacle qui était en maturation dans La Rose des Vents, puisque Sophie était en résidence chez vous ?
Oui, elle a été en résidence un moment en fait pour la fabrication de ce spectacle. Et elle avait proposé déjà une étape de travail en fait en mars 2009 dans le cadre des Lapomatic Théâtre, donc festival qui est assez récent à La Rose des Vents. Et elle avait proposé donc une première étape au Garage, donc à la compagnie d'Oiseau-Mouche. Et voilà, là on va voir son étape de travail terminée complètement donc en novembre.
Donc un spectacle qu'elle a entièrement écrit.
Oui,
et
alors.
Qu'elle met en scène.
Ouais, pardon, excusez-moi. Donc elle a entièrement écrit, mais elle s'est inspirée beaucoup d'extraits en fait d'auteurs, donc comme Franck Caramé, Dario Fo ou Jean Genet encore. Et elle a demandé aussi à Jean-Michel Rabeu, qui est un des metteurs en scène qu'on aime beaucoup aussi à La Rose des Vents, à qui elle a demandé en fait d'écrire un texte aussi dont elle va se servir aussi dans ce spectacle-là. Et Sophie veut effectivement parler de la violence de manière générale qui existe dans notre monde actuel, aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est assez en colère contre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec les guerres notamment. Et là, elle va nous poser beaucoup de questions donc aux spectateurs. Elle y répond pas forcément dans le spectacle, c'est à chacun d'entre nous justement d'y répondre. Et voilà, en gros, jusqu'où la violence est-elle nécessaire pour arriver à ses fins ? Et est-ce qu'on est obligé de passer par le sang, finalement, pour arriver à une sorte de paix ? Et voilà. Après, elle a réussi à ponctuer aussi de petits clins d'œil par rapport à certains contes. Donc voilà, pour elle, les contes en fait sont truffés de violence pour les enfants. Et voilà, elle s'inspire par exemple de La petite fille aux allumettes ou Promenons-nous dans les bois pour enrichir ce spectacle-là. Et voilà, malgré toute cette violence dans ce spectacle, c'est un voyage très poétique porté exactement par trois comédiennes en fait qui sont extraordinaires dans le spectacle.
Voilà, Louise, donc, quel chemin reste-t-il que celui du sang à La Rose des Vents du 4 au 17 novembre ?
Alors, je voulais juste rajouter aussi une petite précision, c'est que le spectacle se joue le 11 novembre, donc qui est un jeudi. Donc, se joue à 21h et on propose un tarif de 5€ par personne.
Ben voilà, il fallait le dire.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Sophie Rousseau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes metteur en scène associé à La Rose des Vents, scène nationale de Villeneuve-d'Ascq. Vous préparez un gros projet actuellement.
Oui, je prépare un projet en deux étapes en fait. L'idée c'est de faire une création la saison prochaine en janvier 2010 autour d'Ulrike Meinhof. Et la vérité c'est que pour moi le projet est un peu compliqué, je ne sais pas encore comment l'attaquer. Et du coup, l'idée, c'est que cette année, je fais une étape de travail dans un laboratoire qui a pour but de chercher des pistes d'attaque et de savoir comment je vais faire avec ce sujet-là. Donc là, cette année, l'étape de travail s'appelle « Quel chemin reste-t-il que celui du sang ?» qui est vraiment un laboratoire.
Donc c'est un projet de longue haleine. Quelle est, au départ, l'origine, la motivation ?
Alors, le point de départ du spectacle, ça relève plutôt d'une question, d'une interrogation que je me pose à moi et aux autres, et je me dis que je ne suis sûrement pas la seule à la poser, qui est que je n'arrive pas à comprendre comment on peut s'accommoder aujourd'hui d'un monde qui va si mal. Quand je dis s'accommoder, c'est pas qu'on n'est pas indigné, c'est pas qu'on manifeste pas, mais c'est cette impression qu'en réalité, on n'agit pas pour que ça change radicalement. Et on n'agit pas sûrement aussi parce qu'on ne voit pas de perspective pour que ça puisse changer radicalement. Et du coup, il y a comme une résignation pour moi face à ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre pour moi-même et pour les autres. Donc voilà, effectivement, j'attaque le point de départ du spectacle, c'est plutôt cette question-là.
Est-ce que vous mettez en perspective cette résignation actuelle aux espoirs issus de mai 68 ?
Non, je mets plutôt en écho un questionnement qui a eu lieu à l'époque avec une utopie qui a pu y avoir de pouvoir changer le monde à cette époque-là. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette utopie de changer le monde ou de pouvoir changer les choses. C'est plutôt un parallèle pour moi entre nous, notre génération à nous, sur une perspective. Quel est l'engagement et dans quel engagement on peut croire aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé à l'époque.
Alors si on reprend l'époque post-68, hein, c'est-à-dire par exemple 70 avec la bande Abader, on peut peut-être retracer dans les grandes lignes ce qu'était cette bande et notamment présenter un peu le rôle de Ulrike.
Alors, le point de départ de mon projet, c'est effectivement Ulrike Meinhof, qui était une journaliste extrêmement reconnue à la fin des années 68 en Allemagne, qui était engagée dans un journal qui s'appelle Concrète, qui était un journal communiste, qui était interdit à l'époque. Et à un moment donné, la question d'Ulrike Meinhof, c'est de se dire, mais en réalité, les mots ne suffisent plus pour changer le monde est sourd. Et dans le contexte de 68, elle rencontre Gudrun Genslin et Andreas Bader qui, pour protester contre la guerre du Vietnam, font un incendie d'un grand magasin et elle les défend. Et à partir de ce moment-là, la rencontre entre Bader, Genslin et Ulrike Meinhof fait qu'ils en arrivent, alors je ne peux pas expliquer tout le détail, mais ils en arrivent à un moment donné à essayer de libérer Bader qui a été réarrêté, enfin c'est un peu... Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un basculement pour, en 70 pour Ulrike Meinhof, où à un moment donné, elle décide effectivement, au cours de la libération de Bader, de passer à la lutte armée et de rejoindre une lutte radicale, où elle abandonne, elle ne croit plus qu'on peut changer le monde effectivement avec les mots, et elle pense qu'il faut passer à une action radicale, et à ce moment-là, il passe à la lutte armée et à défendre l'idée de la guérilla urbaine.
La lutte armée, entre guillemets, le terrorisme, à l'époque, c'était comme ça que c'était traité. Est-ce que ça reste encore le qualificatif adapté à cette lutte ?
D'abord, moi, il me semble, moi, quand je parle du groupe, je parle plutôt de la fraction armée rouge et pas de la bande Abader. La bande Abader, c'était le pouvoir qui en parlait comme ça pour les qualifier justement d'une bande de terroristes. En réalité, eux se présentaient davantage comme des résistants, dans une logique de résistance planétaire, mais ils étaient plus, eux, se qualifiaient comme résistants. Moi, en même temps, dans le projet, mon problème à moi, c'est pas tellement de justifier la lutte armée, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment quelqu'un bascule à un moment donné dans un excès de... dans le fait de pouvoir basculer dans une violence excessive. Moi, ma question, elle n'est pas tellement de savoir s'ils sont terroristes ou pas. Elle est plutôt cet endroit de bascule dans un abîme et dans le fait de choisir une voie qui est sans issue, et elle le sait.
Alors justement, quand vous parliez d'agir dans une voie sans issue, ce pouvoir d'agir à cette époque-là, donc années 70, est-ce qu'il était plus ou moins important que le pouvoir d'agir de cette année ? Est-ce qu'un citoyen, actuellement, a davantage de pouvoir en termes d'action et de réaction ?
Je pense qu'il y a un contexte à l'époque qui est d'abord particulier à l'Allemagne, à cette époque-là, avec tout l'héritage. C'est une génération dont les parents ont été sous le régime nazi. Donc cette génération-là déjà avait un compte à régler qui était extrêmement important avec la génération d'avant et avec la nécessité de ne pas laisser faire comme ce qui s'est passé. Et ce qui explique aussi leur radicalisation face à la guerre du Vietnam où ils savent qu'en Allemagne, par exemple, il y a des endroits où on pouvait programmer les bombardements sur le Vietnam et il y avait des centres de décision qui se prenaient en Allemagne avec les bases américaines. Donc à un moment donné, il y a effectivement ce contexte-là qui fait que la radicalisation et le passage à une action violente, elle s'explique forcément par le contexte historique. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte historique, ça c'est clair. Après, justement, la question que renvoie, enfin en tout cas que me renvoie moi, Ulrike Meinhof, c'est justement ce que j'ai envie dans le spectacle, c'est plutôt de poser la question où est-ce qu'on peut agir, nous, chacun, et quel est notre endroit d'action en réalité. Et je pense que, en tout cas pour moi, hein, ce qu'elle me renvoie, c'est effectivement dans ce qu'elle disait, c'est qu'on ne peut pas attendre de la société pour que ça change. Il faut que chacun agisse et prenne en charge son destin. Et je trouve que c'est plutôt à cet endroit-là, l'endroit de lutte, où est-ce qu'on peut se le prendre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je n'ai pas tellement de réponses. Pour moi, le spectacle, il est plutôt une question avec ça.
Si on reprend un petit peu la problématique allemande, actuellement, bien sûr, il y a le devoir de mémoire. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a aussi le devoir d'action ? Et jusqu'où on peut accepter, tolérer ces actions ?
Moi, ce que je pense qui est inacceptable, c'est de ne rien faire. Moi, je rentre chez moi, j'habite Paris, je croise des SDF dans la rue tous les jours. Et le soir, je rentre chez moi. Évidemment, je suis indignée, n'empêche que je rentre chez moi. Si vraiment ça me posait autant de problèmes que ce que je veux bien croire, je pense que je me bougerais plus les fesses pour qu'effectivement le monde bouge et que ça s'arrête, quoi. À un moment donné, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, la résistance, c'est aussi de choisir de faire pour que ce qui ne nous convient pas s'arrête. Encore une fois, j'ai pas la réponse. C'est pour ça que je fais le spectacle. Mais par contre, il y a une nécessité. Il me semble, c'est pas possible que ça dure. C'est pas possible qu'on continue à une telle déshumanisation des rapports des gens, des uns avec les autres. Et pour moi, mon action, après, l'endroit où pour moi ça peut se passer, c'est l'endroit du théâtre. S'il y a un endroit où on peut encore poser la question et se dire des choses, pour moi, il y a l'endroit du plateau. C'est pour ça que je choisis de mettre les mots d'Ulrike Meinhof sur le plateau. J'ai pas de réponse. Si j'avais une réponse, je crois que j'agirais et je ferais pas du théâtre. Mais en tout cas, de poser la question, j'espère, et pour moi et pour ce qui se passe en face, j'espère qu'à un moment donné, ça puisse m'amener, moi, à une radicalisation d'action. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ce dont je suis persuadée, c'est que ça peut pas durer. Ça, c'est sûr.
Dans le milieu culturel, il y a les décideurs qui sont les financeurs. L'État a tendance à considérer que ce n'est pas du ressort du lieu culturel que de s'emparer des choses politiques.
Moi, je pense que le théâtre est politique, pas au sens politicien du terme, pas au sens qu'on défend une thèse politique, mais de fait, dans la mesure où il parle du social, où il pose des questions de société, il devient politique. Je ne sais pas si c'est clair de le dire comme ça, mais un théâtre qui va parler, qui va traiter la question du corps, qui va traiter la question de la nudité, par exemple, sur un plateau, c'est politique. Forcément, ça questionne le lien des gens les uns avec les autres. Et si ce n'est pas ça l'organisation politique, je ne sais pas où elle se situe. Donc, de fait, le théâtre est politique. Après, moi, dans mon projet, c'est pas militant. Pour moi, le projet, il y a autant d'importance avec le désaccord, enfin, dans le désaccord que j'ai avec cette action-là. Le projet, il n'a pas du tout pour but ni d'appeler à la lutte armée, ni de justifier la violence. Il la questionne. Et effectivement, il y a une question qui est face à la brutalité du système, à un moment donné, que la réponse, ce soit une violence. Il y a quelque chose qui se comprend dedans. Et je trouve qu'il faut qu'on pose la question et que l'endroit du théâtre, il est aussi pour poser des questions sur des choses inadmissibles, pour pouvoir les regarder et peut-être justement envisager quand on sort une autre alternative. Il me semble que du coup, le politique, il est de fait d'avoir des gens en face. C'est un acte politique, le théâtre. Il y a des gens sur un plateau en face de gens en face et ils s'échangent quelque chose. Donc la mise en question qui est de toute façon posée dans ce rapport-là, c'est politique. Après, moi, effectivement, c'est absolument pas militant. Enfin, le désaccord, il est aussi important que le questionnement. Et en même temps, moi, mon problème à moi, c'est de réussir à faire du poétique avec ces questions-là. Que ça reste un endroit aussi de plaisir, même si ça va titiller à des endroits... voilà, qui peuvent déranger. Pour moi, mon problème à moi, il est poétique.
Sophie Rousseau, je vous remercie.
Je vous remercie.